sur 103,5.
À Kinshasa, séance d'échange le jeudi dernier au Grand Hôtel Kinshasa entre les acteurs non étatiques de la RDC et l'Union Européenne. Au menu, bilan des activités réalisées au cours de l'année 2008 et évaluation de la mise en œuvre du partenariat Union Européenne-RDC. Ont pris part à cet échange les membres de la société civile œuvrant entre autres dans les secteurs de l'environnement, justice et paix et la bonne gouvernance. Que peut espérer la société civile de la RDC après cette rencontre? Nous allons faire le point avec vous, Crispin. Crispin, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous étiez présent dans cet atelier tenu le jeudi dernier au Grand Hôtel Kinshasa. Voudriez-vous nous dire réellement sur quoi portait le bilan dont il est fait mention?
Eh bien, JR, le bilan dont il était question ici a porté essentiellement sur les projets élaborés par les participants à cet atelier en 2008. Il s'agit des acteurs non étatiques qui sont mieux connus chez nous en République démocratique du Congo sous l'appellation des sociétés civiles. Pour revenir au bilan, je tiendrai à vous dire qu'ils devaient être tous évalués en perspective du financement promis par l'Union européenne. Suivant.
Nous sommes ici au Grand Hôtel Kinshasa parce qu'aujourd'hui nous sommes invités dans le cadre de l'exécution du 10e FED, le Fonds européen de développement, qui consacre aussi la mise en œuvre des activités sur la décentralisation. Nous sommes là parce que le Fonds européen de développement a consacré pour la période allant de 2008 à 2013 dans le cadre de développement, la coopération Union européenne et ACP, un montant de 514 millions d'euros débloqués juste pour aider la RDC au niveau de la décentralisation, des infrastructures, la protection de l'environnement et d'autres secteurs de la vie nationale.
Et il s'agit d'une séance de mise en commun entre les ANE, c'est-à-dire acteurs non étatiques, et la délégation de l'Union européenne. Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois, et puis on a préparé des fiches de projet à soumettre à l'Union européenne. Ce sera pour faciliter l'implication de la société civile dans le travail du gouvernement et de l'Union européenne.
Alors, Crispin, pouvons-nous donc dire que cette rencontre du Grand Hôtel Kinshasa s'inscrivait dans la suite logique d'autres rencontres précédentes?
Certainement, JR. Il y en a eu d'autres auparavant et c'est dans ce contexte que ces derniers devaient aussi faire le bilan des tâches qui s'étaient respectivement assignées auparavant. En effet, dans le cadre de l'accord de Cotonou qui sous-tend depuis quelque temps la coopération entre le bloc des pays de l'Union européenne et le bloc des pays ACP, auquel appartient d'ailleurs la RDC, un intérêt particulier est accordé aux acteurs non étatiques qui désormais devront être associés à l'utilisation de tout financement destiné au développement.
Alors, quels sont en fait les secteurs visés par le financement en question?
La coopération Union européenne et les pays ACP n'exclut aucun secteur de la vie. À cet effet, je puis vous affirmer sans peur d'être contredit qu'il concerne tous les divers domaines.
Alors dites-nous, Crispin, comment ces fonds va-t-il vous parvenir? Est-ce qu'il vous sera directement remis entre les mains ou il devra passer par l'intermédiaire d'une structure quelconque comme le ministère de la coopération?
Eh bien, JR, à cet effet, je voudrais dire qu'il n'existe aucune confusion possible. Le tout passera au niveau du gouvernement par l'entremise du ministère des Finances. La coopération entre la RDC n'en est pas entamée comme beaucoup de gens risquent de croire. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse écouter plutôt les concernés eux-mêmes.
Bon, en tout cas, les fonds sont là, mais il est vrai, il y a eu les fonds qui ont été conclus entre le gouvernement et l'Union européenne. Mais cependant, aujourd'hui, on accepte de pouvoir mettre aussi les acteurs non étatiques là-dedans. Mais nous allons plutôt concourir au niveau des projets et des initiatives de développement que nous aurons à présenter. Et nos projets présentés, ce seront des projets qui seront présentés par chaque organisation, donc ONG ou syndicat, etc., ou les privés, qui acceptent de pouvoir œuvrer pour l'intérêt national. Donc, ce sont des fonds qui seront une partie donnée pour les projets des initiatives au développement et une partie dont le gouvernement aussi aura à gérer parce que c'est lui qui a conclu le contrat avec l'Union européenne.
Ces projets-là, c'est dans le cadre de programmes d'action prioritaire du gouvernement puisque ce qui se passe, il y a d'abord le gouvernement qui est là, qui a élaboré un plan d'action prioritaire, il y a des programmes, et parmi ces programmes-là, la société civile doit être partie prenante, c'est-à-dire en tant qu'acteur au sein dans notre pays, la société civile devra aussi apporter sa contribution, son expertise. C'est dans ce cadre-là qu'on a aussi élargi l'assiette pour que la société civile intègre, propose et accompagne le plan d'action du gouvernement. Donc, certainement, si l'Union européenne soutient notre gouvernement, en ce qui concerne la réalisation, il y aura les experts de la société civile qui vont intégrer, qui vont aussi apporter leur expertise.
Voilà, autant de questions posées par certains observateurs, et surtout à savoir, c'est que quel sera l'impact que devra produire cet échange du Grand Hôtel Kinshasa. Est-ce qu'effectivement la société civile sera intégrée dans surtout l'utilisation de cette expertise en ce qui concerne le financement de différents projets par les organismes internationaux? Autant de questions, autant de réponse. Nous allons réfléchir d'un moment à l'autre peut-être avec notre invité. Mais Crispin, au cours de cet entretien, vous aviez évoqué les accords de Cotonou. Pouvez-vous nous expliquer les principaux termes de ces accords?
Oui, JR, les accords de Cotonou sont, je le rappelle, encore le cadre qui régit la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Ils visent le développement des capacités des acteurs du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie des marchés, ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée. Cette coopération s'exerce sur la base des principes fondamentaux qui peuvent se résumer à l'appropriation des stratégies de développement.
Mais voilà, donc il y a beaucoup à dire. Nous rappelons d'ailleurs nos numéros de contact pour que les auditeurs participent à cette émission. Comme vous le savez, le 081 070 20 50 pour les SMS et le 081 890 63 94 pour les appels en direct. Nous avons la possibilité de vous rappeler si jamais donc vous refusez de nous biper. Alors nous avons la possibilité de vous rappeler pour recueillir vos suggestions, propositions et réactions. Donc n'hésitez pas. Nous sommes en train de parler de projets d'appui au renforcement des acteurs non étatiques en RDC. Qu'en est-il au juste? De quoi s'agit-il? Est-ce faudrait maintenant s'attendre à des financements qui vont tomber directement entre les mains des organisations non gouvernementales, ou c'est comme d'habitude la procédure sera respectée, que le fonds soit d'abord remis au ministère de Finances, de Budget et à d'autres pour exécution, afin de permettre à ce que les ONG puissent passer de marché, donc que le marché soit passé et que le meilleur puisse gagner. Alors, on va terminer avec vous, Crispin Osomba, disons, de nous dire quelle innovation qu'apporte ce fameux accord de Cotonou.
En effet, JR, l'innovation de l'accord de Cotonou est d'avoir ouvert les partenariats à d'autres différents types d'acteurs. Ceci favorise la participation de toutes les couches de la société, y compris ceux du secteur privé tels que la société civile, appelée ici acteurs non étatiques.
À la vie politique, économique et sociale, bien entendu.
Certes.
Voilà, Crispin Osomba, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on vous dit au revoir, merci d'avoir été de notre et bonne semaine.
Je vous remercie aussi, JR.
Okapi, fréquence de la paix.
081 070 20 50 pour les réactions au travers des SMS et le 081 890 63 94 c'est pour les appels en direct. Dans quelques instants, nous recevons notre invité. 11h à Kinshasa, 12h à l'Est. Flash Info, Belinda Bosuma.
Bonjour. À l'Assemblée nationale, la toute première plénière présidée par le nouveau bureau doit se tenir ce lundi. Selon le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Évariste Bouchab et son bureau comptent mettre à profit les 7 semaines restantes avant la clôture de la session ordinaire en vue de traiter les matières prioritaires avec le concours de tous les députés. Parmi ces matières figurent la réforme de la justice et de la décentralisation ainsi que les actions dans le cadre du contrôle parlementaire. Les rebelles ougandais blindés de la LRA ont attaqué hier la localité de Gangala, située à 235 km au nord de Dungu. Nous sommes là dans la province orientale. Les assaillants ont pillé des maisons avant d'enlever 8 personnes afin qu'elles transportent leur butin. Et puis cette marche des armateurs, ce lundi à Bukama, à près de 500 km de Lubumbashi, les manifestants se sont dirigés au bureau du territoire où ils ont remis un mémorandum à l'administrateur du territoire. Selon le premier conseiller de la Corporation des armateurs de Bukama, à travers cette marche, les armateurs expriment leur mécontentement face aux tracasseries dont ils sont victimes de la part de la force navale et de la police fluviale au port de Bukama. Dans leur mémorandum, les armateurs exigent entre autres le départ de ces hommes en uniforme. On écoute David Bakassé, joint au téléphone par Neil Kabena.
Nous avons un climat ici qui ne nous permet pas à cause de la force navale et la police fluviale. Ils intercalent souvent nos travaux. Nous déchargeons les histoires tardivement aux véhicules. Nous les amenons au poste lors du chargement, même s'il fait 16 heures. Dès qu'ils descendent les drapeaux, c'est tout. Ils ferment les portes. Alors il y a les tracasseries, il y a l'arrestation arbitraire, raison pour laquelle nous avons manifesté. C'est une manifestation du mécontentement contre ces deux groupes, la force navale et les éléments police fluviale. Ils disent qu'ils ne défendent pas de Bukama, ils défendent Lubumbashi et Kinshasa, raison pour laquelle nous avons affiché ces comportements.
Signalons que le commandant de la police fluviale est resté injoignable.
Okapi. La grande édition de la mi-journée, c'est tout à l'heure à 12h, heure de Kinshasa, lorsqu'il sera 13h dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Nous poursuivons notre voyage à travers le pays. L'escale, c'est vrai, nous sommes là à Kinshasa avec le projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques en République démocratique du Congo. Et dans ce studio, Monsieur Kambaza, coordonnateur du projet d'appui aux acteurs non étatiques, est déjà là. Bonjour Monsieur Kambaza.
Bonjour monsieur.
Alors, aujourd'hui, parler de projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques en République démocratique du Congo, ne s'agit-il pas là d'un changement d'approche de l'Union européenne d'octroi de financement pour des projets de développement en République démocratique du Congo?
En fait, comme l'a dit notre prédécesseur, le gouvernement congolais et l'Union européenne, dans leur cadre de concertation et de coopération, avait constaté que les acteurs non étatiques n'étaient pas suffisamment impliqués dans leur mission de coopération. Ainsi donc, ils ont décidé de mettre en place un projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques pour que ceux-ci soient suffisamment capables de s'impliquer dans la formulation, la mise en œuvre, l'évaluation des projets de coopération communautaire initié entre les gouvernements.
Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné.
Oui, théoriquement, ça a toujours été ainsi, mais en pratique, par exemple, pendant la planification de tous les 9e FED, il est apparu que les acteurs non étatiques n'étaient pas suffisamment impliqués, pour la simple raison qu'il y avait très peu d'interlocuteurs à même de poser le problème clairement identifié au niveau de la base.
Non, mais parce que le problème, c'est que c'est pas seulement les cas de l'Union européenne, mais c'est pratiquement le même film avec d'autres organismes internationaux. Ils remettent par rapport au projet leur soumis par le gouvernement au travers du ministère de plan, et ils exécutent un programme déjà bien élaboré par le gouvernement qui passe des marchés entre certaines ONG.
Non, je pense qu'il y a eu une grande évolution. La planification du 9e FED n'avait pas impliqué les acteurs non étatiques. Le 9e FED est parti de 2003 à 2007. Il y a le 10e FED en conception qui doit aller de 2008 à 2013. Pour une fois, et le gouvernement et l'Union européenne ont décidé d'impliquer suffisamment les acteurs non étatiques.
À quoi consistera réellement cette implication?
L'implication consiste en ce que d'abord les acteurs non étatiques soient suffisamment outillés méthodologiquement pour être en mesure de formuler, concevoir, exécuter, évaluer des projets de développement communautaire. Et c'est le rôle principal de notre projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques, que ceux-ci soient en mesure réelle d'être de véritables interlocuteurs et de l'Union européenne et du gouvernement et même d'autres bailleurs de fonds.
Oui, quand vous parlez des renforcements des acteurs non étatiques, nous avons vu, il y a quand même par plusieurs fois, cette opération s'est faite sur dans notre pays. Ben, aujourd'hui, c'est comme si on remet en cause tout ce qui a été déjà fait en amont. C'est comme pour dire, on pointe du doigt ces ONG de ne pas être vraiment efficaces sur le terrain. Et pourtant, c'est le gouvernement qui centralise, qui a presque tous les moyens de sa politique pour aider au développement du pays.
Et ça, c'est une évidence.
On peut pas attribuer quand même l'échec aujourd'hui de secteur de développement aux différents acteurs non étatiques.
Non, nous n'avons pas dit que ce sont eux les responsables de la situation actuelle que vit le pays, mais nous devons aussi reconnaître une part de la désorganisation de ces acteurs non étatiques. Si vous constatez, par exemple, il est très difficile qu'il y ait un cadre de concertation entre les différents acteurs non étatiques pour avoir une position commune par rapport à une intervention quelconque. De ce côté-là,
Le ministère de plan a initié ce que nous appelons les groupes thématiques, et dans les groupes thématiques, pratiquement tous les secteurs sont impliqués, et je crois que même les différentes ONG travaillent dans ce groupe thématique, et ce que vous faites dans le cadre du projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques en République démocratique du Congo, tiendra-t-il compte de tout ce qui est fait dans le groupe thématique, ou vous allez peut-être faire cavalier seul et faire un doublon du groupe thématique?
Non, le projet ne va pas créer des cadres de concertation, et nous sommes en parfaite collaboration avec les groupes thématiques qui sont en train d'opérer au niveau du ministère du plan, et nous sommes en attente de ce qu'ils puissent mettre d'une façon consensuelle un cadre de concertation en place. Et dès lors, notre mission sera de renforcer.
Donc jusqu'à maintenant, le groupe thématique n'a pas encore mis un cadre. Depuis 2 ans maintenant, ils traînent les pieds.
Oui, jusqu'à présent, ils ont déjà fait des consultations au niveau provincial. Maintenant, il reste de tenir une rencontre nationale où toutes les provinces seront invités et de là sortira le cadre de concertation.
Oui, mais M. Kambaza, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui qu'avec l'apport des acteurs non étatiques, les objectifs poursuivis seront atteints?
Nous pensons que...
Puisque tout est géré, comme vous avez dit, centralisé par le gouvernement.
Par le gouvernement.
Non, qu'est-ce qui va changer?
La coopération.
Parce que c'est le gouvernement qui
organise
des marchés de gré à gré, des marchés gagnant-gagnant. Mais il y a que lui, donc.
C'est le gouvernement qui va choisir les ONG, choisir, et les choses vont changer comme ça?
Non, il n'y a pas que le gouvernement qui accorde des financements.
Et quelle est la valeur ajoutée maintenant?
Prenons le cas de l'Union européenne, par exemple, qui est un grand contributeur pour le développement du pays. Il a des exigences pour pouvoir souscrire à un marché.
Et quels sont les critères aujourd'hui, les critères de choix?
Et nous, notre mission, justement, c'est de pouvoir outiller méthodologiquement les acteurs non étatiques.
Malgré cette exigence, le développement est loin d'être atteint dans notre pays. Donc, c'est comme vous dire, quelque part, il y a quand même une cassure de fil rouge.
Oui, le développement, c'est tout un processus. Mm-hmm. Et nous pensons que pour que ces acteurs soient plus efficaces...
Oui, mais c'est tout un processus. Il ne faudrait pas aussi avoir ça comme excuse pour dire, mais voilà, ne pas atteindre ne plus que le 1/20 de ce qui devait être fait.
Mais soyons quand même réalistes. Les acteurs non étatiques sont regroupés en plusieurs familles. Il y a les acteurs du secteur privé qui opèrent directement au niveau de l'économie. Il y a les acteurs politiques, le secteur économique et politique. Prenons le cas des syndicats, par exemple, qui ont pour mission de défendre les intérêts de leurs membres. Nous avons aussi d'autres acteurs non étatiques, la plupart regroupés au sein de la société civile, qui sont soit dans le développement, soit dans les droits de l'homme, soit dans la santé.
Oui, une question de curiosité, M. Kambaza, vous avez parlé de renforcement des acteurs non étatiques. Concrètement, comment vous allez vous y prendre? Là, carrément, ça nécessitera des séances de travail pour qu'effectivement ces gens-là soient suffisamment outillés. Donc, ça demande des moyens. L'Union européenne est prête à vous aider dans ce sens-là.
Oui, nous avons déjà des moyens pour cela et nous avons 3 approches. Il y a d'abord le renforcement des compétences des acteurs non étatiques, de sorte qu'ils soient aussi à même de concourir, de monter des projets acceptables par tout intervenant.
Des projets bancables.
Le deuxième axe, nous allons accorder des petits financements à ces acteurs non étatiques pour des initiatives de développement dans le sens de les amener à s'exercer davantage dans la gestion des fonds qui ne leur appartiennent pas. Et enfin, avec eux, nous allons réfléchir sur la législation qui les régit jusqu'à présent.
Donc tout ça, vous avez toutes ces stratégies mises en place, c'est suite à un résultat qui a été mitigé en 2008.
Et non, ce n'est pas en 2008, c'est depuis 2003 qu'une étude a été faite. Et de cette étude, il est ressorti différentes faiblesses des acteurs non étatiques et que nous-mêmes, nous venons aussi de réétudier parce que nous venons de terminer une étude cartographique des acteurs non étatiques pendant l'année 2008 et qui a montré les faiblesses... Beaucoup de faiblesses réelles des acteurs non étatiques, des faiblesses liées justement aux capacités managériales, des faiblesses liées aussi à la
faiblesses liées également à la passation des marchés,
non, à la mauvaise gestion.
C'est ça la faiblesse des gestions.
Oui, mais maintenant, aujourd'hui, comment remédier à tout ça? Les faiblesses sont là.
Les faiblesses sont là. Nous avons pris deux axes. Il y a des axes de formation, d'échange, et un autre axe de donner de l'argent en liquide à ces organisations.
Et donc, il y a de l'argent disponible.
L'argent disponible.
Autour de combien à peu près, si c'est pas discret.
Pour ce premier appel à projet, nous avons prévu à peu près 500 000 euros pour 6 provinces.
Et cet argent sera géré comment?
Et il appartient à chaque association demandeur de monter son projet et de le présenter à un comité de sélection.
Quels sont les critères de sélection retenus pour avoir accès à ces fonds? Parce que vous avez retenu quand même certaines ONG. Quels étaient les critères de sélection?
Nous n'avons encore retenu personne. Nous avons un appel à proposition qui court jusqu'au 12 juin.
Oui, vous avez besoin de combien d'ONG?
Nous avons d'abord... Nous sommes d'abord dit qu'ils ne font pas concentrer tous les moyens disponibles dans les mains de quelques ONG. Nous avons estimé qu'il nous faudra au moins 6 ONG par province.
6 ONG par province.
Oui.
Dans quel secteur?
Les secteurs les plus diversifiés possibles, notamment, il y a la santé, l'agriculture, le développement rural, les infrastructures, les droits de l'homme.
Les droits de l'homme.
Oui, il y a plusieurs secteurs, mais quelle est la priorité? Est-ce que vous avez
la priorité pour nous, donc des projets vraiment éligibles, il faut que ce soit des projets qui permettent la structuration, l'organisation et le renforcement des capacités intrinsèques de l'association.
L'idéal pour vous, ça serait peut-être un projet à long terme ou à court terme?
Non, c'est des petits projets, des micro-projets. D'une durée maximum de 6 mois, parce qu'après cela, nous allons encore accorder 2 fois de suite d'autres subventions.
Oui, vous avez un exemple précis d'un petit projet que vous voulez?
Non, justement, je ne voudrais pas influencer les demandeurs, mais ce que nous voulons exactement, c'est une association puisse monter un projet qui est en même temps porteur d'une initiative locale de développement, mais qui implique en même temps les membres de l'organisation, la communauté locale, même l'autorité politique ou administrative.
Donc désormais, c'est comme ça que l'Union européenne va fonctionner avec vous?
C'est nous qui sommes en train de former, de renforcer les acteurs non étatiques et dès qu'ils seront habitués à remplir nos formulaires et surtout comme nous allons les accompagner dans la gestion.
L'ancien système doit être banni. Il ne faudrait pas que les gens passent par des personnes interposées pour aller chercher à avoir gagné des marchés d'une manière complaisante. Aujourd'hui, c'est d'abord le renforcement des acteurs non étatiques. Et s'il faut présenter un projet bancable, vous avez droit, par rapport à ce micro-projet, à obtenir un fonds de la part de l'Union européenne.
Exactement. Ce que nous sommes en train de faire comprendre aux acteurs non étatiques, c'est d'éviter la formule habituelle de rédiger soi-même un projet, mais de se conformer au canevas de la plupart des financeurs. Et l'argent que nous donnons, ce n'est pas de l'argent, c'est évidemment...
Ce n'est pas de l'argent jeté.
C'est un financement de l'Union européenne. C'est un financement de l'Union européenne, mais qui n'est pas géré par l'Union européenne, que nous gérons directement au sein du projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques.
Alors, pour vous avoir, le siège du projet d'appui au renforcement des acteurs non étatiques, c'est où concrètement? Et vous avez dit, l'appel à proposition, c'est, la date limite, c'est le 12 juin.
Ah oui.
Donc, les ONG n'ont pas assez de temps. Donc, ils n'ont qu'un mois. Il faut vraiment faire vite. Faut pas nous presser.
Justement, nous sommes sur l'avenue des Sénégalais au numéro 21, dans la commune de Lagombe. Les offres sont téléchargeables sur des sites web, notamment le site du projet www.projet-ane.org. Ces mêmes offres se trouvent aussi sur le site www.mediacongo.net.
Donc on a deux sites, www.projet-aen.org.
Oui.
Et puis www.mediacongo.net. Alors si on vient vous atteindre facilement, physiquement, donc il n'y a qu'à passer sur l'avenue des Sénégalais.
Au numéro 21.
Au numéro 21, l'avenue de commune de Lagombe. Monsieur Kambaza, nous rappelons que vous êtes coordonnateur du projet d'appui aux acteurs non étatiques. Merci d'avoir été de nôtre et à la prochaine.
Merci beaucoup, mais je rappelle que je suis le chef de mission adjoint. Il y a un coordonnateur qui est le chef de mission.
Chef de mission adjoint.
Merci.
Du projet d'appui aux acteurs non étatiques.
Oui, merci.